enregistre aussi sur mon téléphone. Okay. Est-ce que tu peux me déverrouiller ton...
Oui, pardon. C'est ça le truc, si jamais ça se reverrouille.
Ok. Donc, pour mes questions, je suis partie du rez-de-chaussée, avec les trois œuvres qu'il y a au rez-de-chaussée. Et les deux premières qui m'ont attiré l'œil, c'est les falaises et l'enfant à l'anorak. Je l'appelle comme ça l'autre peinture, l'enfant à l'anorak. Donc je mets ces deux peintures en lien étroit. Le Kos ainsi représenté semble à la fois fait de griffures régulières, comme un rideau de pluie. L'autre tableau montre un enfant en anorak qui montre un mur, comme une falaise, recouverte de sortes de graffitis. Ces graffitis, dans mon interprétation, ce sont comme des signatures, des griffures, quoi. Que t'inspire cette roche, le Kos ? Enfin voilà, qu'est le Kos ? Qu'est-ce que ça t'inspire ? Que tu la vois tous les jours sous tes yeux parce que voilà, t'habites dans une maison qui donne sur le Kos. Qu'est-ce qu'elle te procure comme émotion, comme sensation et comme inspiration ?
Bah, en fait, c'est exactement ça. C'est un paysage qui est sous mes yeux tous les jours et depuis longtemps. Depuis enfant, on voit, on connaît ces falaises. Et en fait, selon les endroits, selon les années, selon les moments de vie, ça a été à la fois fascination et répulsion aussi, parce que il y avait aussi un sujet un peu mur érigé devant moi. Et j'habite un village qui est dans une vallée, et qui dit vallée dit encerclé, en fait, encerclé de... Là, en l'occurrence, à Saint-Antonin, encerclé de falaises, de collines. Donc, il y a à la fois quelque chose de l'ordre de la fascination, parce que c'est monumental, parce que j'ai déjà grimpé dessus, parce que je me suis déjà promenée dedans, à côté, au bord. Mais parfois, il y en a certaines... que je trouve oppressante. Y a des chemins de promenade ici qui sont vraiment contre la falaise, et elles viennent nous surplomber, et ça peut avoir une sensation assez angoissante, finalement. J'aime ressentir aussi le fait d'être assez microscopique, en fait, dans ce paysage naturel. Donc, voilà, cette falaise, ce Kos, c'est pour moi un hommage aussi à la représentation de la nature qui m'entoure. Et du coup, peut-être que, justement, dans ton interprétation... Tu y vois des choses griffées, etc. Et ben, c'est vrai qu'ici, c'est une roche calcaire qui parfois est très... qui pourrait paraître assez cinglante comme ça, très brute. Moi, j'aime ce côté-là. Et en même temps, comme je disais tout à l'heure, je le trouve dur aussi. Donc, j'aime bien dans mon travail. Je suis assez attirée par l'ambivalence. Et je pense que c'est... Quels que soient les sujets que j'explore, j'ai toujours un endroit de... Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Il y a toujours des zones d'ombre. Et je trouve que un paysage n'est pas suffisant pour moi si il n'est que contemplation de beauté. C'est important dans mon travail d'y mettre aussi une émotion plus dure. Voilà.
Je le vois notamment dans la première peinture où on voit la falaise, et il y a cet arbre qui coupe le champ de vision. Et je retrouve, dans ce que tu dis, je retrouve ça, tu vois, un petit peu... comment dirais-je, que ce soit pas une facilité à la vue, voilà, la belle falaise, le bel endroit, non, ouais. Mais justement quelque chose qui vienne un peu jouer, en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Ramener du jeu dans le regard, enfin quelque chose qui dérange le regard, qui... tu vois ce que je veux dire ?
Oui, puis c'est aussi une question de rythme et aussi de structure, en fait, pour moi, de dynamisme,
oui.
dans le dessin, dans, ouais, l'œuvre, dans... qu'elle soit abstraite ou semi-figurative, c'est important pour moi qu'il y ait aussi quelque chose qui vienne faire des césures, qui vienne aussi un petit peu casser...
une régularité,
voilà,
par exemple.
Exactement.
Mmh. Ouais.
Et je trouve qu'en plus, c'est juste dans moi ce qui m'attire le regard dans la nature, chez les humains ou dans d'autres œuvres artistiques. J'aime les failles.
Mmh. Les failles, les falaises. Les failles des falaises. la seconde peinture où on voit... Alors, pour moi, c'est un enfant en anorak.
Tout à fait.
Voilà, c'est ça. Hein, ça représente un enfant en anorak qui montre, pour moi, ce qui est comme un mur. Donc, peut-être le mur de la falaise, tu vois, je sais pas.
Alors, il montre pas forcément ce personnage. En fait, il m'a été inspiré d'un reportage sur des enfants et leur rapport à la philosophie. Et il y a un moment dans ce reportage, des enfants sont dans la cour et il y a un petit garçon qui se cache la tête dans son anorak et qui court pour jouer. Et j'ai adoré cette image de justement aussi jouer avec le risque comme ça, de se cacher la tête, d'être de s'auto-aveugler. Donc c'est encore pour moi ce sujet-là, un peu de l'ambivalence, parce qu'en plus, du coup, vu qu'on ne voit pas sa tête... on pourrait croire qu'il n'en a pas, alors qu'en fait, elle est à l'intérieur de la morac. Il ne montre pas forcément, mais il est là, et puis il est dans l'eau. Il est dans cette rivière aussi, il est dans cet espace du tableau où, en fait, il n'a plus de jambes. Il est immergé dans quelque chose. Alors, on peut y voir ce qu'on veut, hein, de l'eau, du sol, de la lumière, ce qu'on veut. Mais en tout cas, il est immergé à moitié du corps. Et voilà, c'était pour moi aussi une symbolique, quoi, de cette façon complètement aveugle qu'on a de rapport à la nature, à notre environnement, d'une façon un peu décalée avec la réalité et notre temps. Et la symbolique de l'enfant, parce que c'est à eux que tout ça va arriver, en fait. C'est aussi ça, c'est quelque part, c'est ma petite gravité dans ce tableau-là. Même si j'y ai mis beaucoup de couleurs, beaucoup de joie, parce que oui, la falaise est très colorée. Une fois de plus, c'est toujours cette envie de travailler avec cette ambivalence... comme de voir que rien ne va dans ce monde, mais que chacun fait ce qu'il peut pour garder de la joie et de l'espoir.
Et il y a cette ambivalence aussi du petit garçon, parce qu'en effet, on dirait une présence spectrale, donc comme une présence du passé, le spectre, et en même temps tourner vers l'avenir, vu que c'est un enfant, en fait.
Ouais, ouais.
Mais c'est vrai qu'on peut l'interpréter comme un petit fantôme, quoi. Comme
on peut.
Il y a cette ambivalence.
Complètement.
Qui est vraiment intéressante, enfin, qui moi, m'a touchée.
J'aimais bien aussi l'aspect quasi cinématographique du format, en fait. J'avais envie de ce tableau longiligne, comme presque une image tirée d'un
plan séquence.
D'un plan séquence,
ouais.
Ouais.
Mmh. Oui, complètement.
C'est des formats qui me plaisent bien aussi dans la dans la ligne de fuite.
Oui.
Voilà.
Oui, qui va vers la droite, là, qui s'éloigne. Et je remarque que les ciels sont identiques dans les deux tableaux. Le même bleu, très très clair. Bon, voilà, c'est quelque chose qui résonnait aussi entre les deux tableaux qui sont mis à côté. Et je trouve qu'ils communiquent bien ensemble, quoi. Quelque chose de... qui interpelle. Ouais, voilà, donc je te demandais que t'inspire cette roche éternelle, c'est moi qui ai mis éternelle, qu'est le Kos, donc tu m'as répondu. N'est-il pas à la source de ta propre patte artistique, c'est-à-dire à l'origine de ta propre et singulière signature de peintre? Donc, dans ta... Mais tu m'as répondu, je crois, quoi.
C'est... Oui, pas forcément une signature, parce ouais. que j'y vais, je m'en éloigne. Des fois, c'est aussi un process graphique que j'aime bien utiliser, la coulure, la ligne. Il y a eu des œuvres où ça a été des sortes de fils. C'est aussi un, presque pour moi un pattern rythmique, en fait, et pas forcément uniquement symbolisé par la roche.
Ok. Sur les formes, du coup. Le rythme ouais. des formes, ouais, ouais, ouais. de la construction, de la peinture, enfin du dessin, exactement. Tout ça, quoi. Ouais, quelque ouais. chose qui va dans le rythme. Ça fait plusieurs fois que tu parles de rythme, et je trouve ça intéressant. On va parler maintenant de la troisième peinture, qui est après du bar. Je ne sais pas comment, si elle a un titre.
Oui, elle s'appelle « Graines et pneus ».
Graines et pneus, ok. Merci. Alors, là aussi, c'est une interprétation de ma part. Je vais te la lire et ensuite, on discutera là-dessus. Cette peinture me fait penser à un lieu dystopique, à un environnement post-humanité. La nature y aurait repris ses droits, mais ce serait une végétation elle-même hallucinogène, comme intoxiquée. Les restes humains viennent de la machine, du tracteur. D'où ma question, penses-tu le futur comme quand tu crées ? Je pose aussi cette question, car dans le titre de l'exposition, il y a un futur, restera. Il restera la rivière. Donc il y a ce futur. Comme si tu avais voulu anticiper, par ta création, la fin de l'humanité.
Alors, c'est une interprétation subjective, en effet. Mais qui n'est pas dénué de sens hein, non plus. Alors je ne pense pas spécialement quand je peins, j'ai pas forcément un désir de lecture précis. Je n'ai pas un désir que le regard de l'autre aille dans une histoire précise. Déjà complètement. Picturalement parlant, j'aime mélanger des éléments d'abstraction et de figuration. J'aime, comme je disais tout à l'heure, travailler sur l'ambivalence, sur le lien à des formes qui pourraient s'apparenter à des formes de la nature, mais qui pourraient aller aussi dans plein d'autres imaginaires.
Organiques notamment.
Complètement organiques. Mais l'organique, voilà, c'est tellement vaste. Hein. Une algue peut être une cellule, peut être un système nerveux. Une graine peut être une vulve, un fruit d'un arbre. Ça, c'est vraiment, pour le coup, quelque chose qui m'importe peu comment on interprète le rendu final. Moi, c'est un process, c'est un chemin. Je tends vers l'envie de... célébrer ces formes organiques, mais toujours en y mettant aussi du dysfonctionnel. Et là, notamment, déjà la structure de ce tableau, quand même, définit une sorte d'intérieur,
oui.
une pièce, une salle, qui n'est pas définie, c'est juste un intérieur. Et donc, d'être dans un intérieur en même temps avec. Une couleur de fond très, très aquatique, avec, comme tu disais, des formes organiques, rentre tout ça dans une sémantique un peu précise Donc c'est vrai que l'arrivée des pneus pour moi, c'est aussi ma façon de nouveau casser, rythmer différemment et de toujours avoir notre part, quoi, notre part de responsabilité d'humain qui crée le chaos souvent. Mm. Donc, mais ça a aussi quelque chose de beau pour moi. Il y a vraiment un terrain vague peut être magnifique. C'est des paysages en tout cas que j'aime faire parce qu'il n'y a pas spécialement de sens. Mais j'aime tendre vers la poésie. Mmh. Voilà.
Ok. Moi, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, mais cette salle, et là aussi c'est subjectif, mais je l'interprète comme une salle de bain, tu vois. Une salle de bain où des champignons, une salle de bain laissée à l'abandon, où des champignons auraient poussé, tu vois. Mmh. Et avec ces restes de pneus, comme si c'était une maison abandonnée, tu vois. Ouais. Voilà. Et un côté un peu dégénéré, tu vois.
Ouais.
Comme si c'était une nature dégénérée, avec du fluo, enfin, tu vois, comme si quelque chose s'était détraqué, en fait.
Ouais.
Et d'ailleurs, la présence de la machine, c'est comme si un rouage s'était détraqué, tu vois.
Ouais, ouais.
Et c'est comme si la nature s'était détraquée. Ça m'a vraiment inspiré ça, cette peinture. Et sur le restera, elle est là la poésie quoi, du titre de ton expo, je trouve ça très beau. Il restera la rivière, parce qu'il y a une espèce de, à la fois de voyage dans ton passé, et on l'a vu avec ce que tu as laissé comme écrit, à la fois un voyage dans ton passé et quelque chose qui tend vers le futur, et comme si il y avait cette présence immémorielle de l'eau ou de quelque chose qui continue à exister de l'ordre de la nature, quoi.
Mmh.
Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Ben, j'ai monté cette expo déjà avec des œuvres qui ne sont pas toutes de la même année, hein. Donc c'est vraiment un montage spécifique de cette exposition avec cette thématique de l'eau, de la rivière. Donc j'avais besoin de symboliquement la glorifier. C'est la rivière d'ici. Les rivières en général, ça me plaît, ça me fascine.
Plus que la mer, par
plus que la mer, ouais. Plus que la mer. Je pense que c'est parce que la rivière, c'est un microsystème à elle toute seule, et que je dis pas que la mer ne l'est pas, mais en fait il y a aussi, je pense que physiquement ça m'attire plus parce que il y a tout un microcosme autour, il y a beaucoup de végétation souvent, etc. Et parce que c'est un élément, l'eau, qui dans son ensemble m'est nécessaire, me fait du bien, m'apaise, ouais, mais nécessaire, complètement nécessaire. Et je me rends compte aussi que ça va devenir la grande problématique. Même on est déjà dedans, hein, j'allais dire, ça va devenir, mais en fait, non, c'est l'une des grandes problématiques écologistes, quoi.
Mm.
Et c'est catastrophique, et ça fait partie des choses qui peuvent vraiment m'angoisser.
Mm.
Le rapport à l'eau, qu'on n'ait plus de lien à l'eau comme quelque chose de l'ordre de la liberté absolue, du vivant, et de savoir que des eaux soient privatisées, qu'il y ait des peuples dans le monde qui en manquent, c'est très angoissant pour moi.
Mmh. Et tu mets un lien, du coup, entre liberté et eau.
Ouais.
C'est, ça te vient spontanément, ouais. Alors que moi, pas spécialement, tu vois.
Ouais.
L'eau, ça m'évoque autre chose, quoi. Mais toi, il y a quelque chose de l'ordre de cette espèce de liberté, enfin de...
Ah bah oui, parce que de... c'est une nécessité vitale.
Ouais, ouais, ouais.
C'est une nécessité vitale.
Ouais.
Et je trouve ça catastrophique qu'on puisse la souiller, en fait. Mmh. Et... comme la qualité de l'air, hein, tu... mais là l'eau, ça, je sais pas pourquoi ça m'a autant impactée, mais ça, c'est ultra inquiétant, c'est vraiment très très inquiétant.
Ça t'angoisse, quoi. Ok, alors on va passer à l'étage, et j'ai été attirée par la peinture avec la femme masquée. Enfin, moi je l'appelle comme ça, la femme masquée. Je ne sais pas si c'est un titre aussi, cette peinture.
Oui, oui, elle a un titre. Elle s'appelle « La femme, le chien et le nid ».
Ah, voilà. Ok. Alors, ça m'évoque une scène onirique. Ça m'évoque le rêve, cette peinture. Les yeux bandés de la femme comme plongés dans le sommeil. La masse noire, c'est-à-dire le fond noir, comme si c'était sa propre chevelure, tu vois, qui s'étendait comme ça à l'infini. Les fruits disproportionnés, espèce de, on est dans un environnement pas du tout normal, quoi. Tout est voilà, l'espèce de citron, on ne sait pas si c'est des figues ou des citrons ou le mélange des deux, enfin c'est hybride. Il y aurait comme une représentation d'une image mentale, d'un rêve, d'une vision. Moi ça m'évoque ça. Donc que penses-tu de cette proposition qui est à nouveau subjective? Tes rêves t'inspirent-ils? Ah, donc un jour, je t'avais demandé si tu avais parfois l'impression de trop voir, d'avoir un excès de vue, et tu m'avais répondu que oui. Ceux qui voient ont-ils une responsabilité quant à notre avenir? Est-ce que tu penses que les visionnaires ou ceux qui ont cette capacité de voir ou de trop voir, ou je ne sais pas si je suis claire, mais ils ont une responsabilité? Ton implication dans l'art a-t-il pour origine cet excès de sens? Que ça...
Alors, il y a beaucoup de questions en
ouais.
Donc je vais faire par étapes. Bon, déjà sur l'interprétation de ce tableau. Là, c'est clair que c'est ton interprétation, que c'est très subjectif. J'ai pas spécialement eu de volonté précise à peindre une image sortie d'un rêve ou d'une imagination. En fait, souvent, moi, dans mes compositions, j'ai des flashs, effectivement, d'images, d'envies. Là, en l'occurrence, c'est plus particulièrement le chien qui a été ma première image. Il s'avère que, en fait, j'ai des amis qui avaient un chien... un lévrier afghan et je trouvais cet animal fascinant, déjà d'une gentillesse incroyable, mais surtout fascinant dans son esthétique complètement c'est assez improbable, hein, le lévrier, c'est vraiment extrêmement
très haut sur pattes,
oui, extrêmement maigre,
ouais.
Avec ce poil ras et des grands yeux de biche, il y a quelque chose un petit peu de déjà d'étrange dans l'esthétique de cet animal. Et voilà, je m'étais amusée à le prendre en photo. Et donc, c'était mon point de départ, en fait. C'était mon point de départ, ce chien. Alors, même je souhaite jamais avoir une représentation fidèle, absolue. Je tends vers, c'est mon inspiration première. Et après, voilà, je vais là où les couleurs, la structure... l'envie me mène. Et au fur et à mesure, en fait, à la base, ce tableau, il était... il y avait plein de personnages. Vraiment plein de personnages. Et en fait, j'ai mis un temps fou à le finir. Rien ne me plaisait jamais. Pardon. J'enlevais des personnages, rajoutais des choses, et puis et en fait, c'est plus j'épurais, Et plus j'allais dans la justesse de ce que j'avais envie de dire à ce moment-là, dans cette image. Donc, en fait, tu vois, ce chemin, il est très instinctif, en fait. Il est pas tellement pensé à la base. Alors, ce rapport au rêve, c'est marrant que tu me dises ça, parce que j'ai pas du tout l'impression que mes rêves m'inspirent. Je me souviens assez rarement de mes rêves, d'ailleurs. Donc, c'est pas une source importante dans mon cheminement, dans mon processus créatif. Mais pour autant, quand je suis en train de travailler sur un tableau ou une série de dessins ou sur un projet graphique, quel qu'il soit, je sais que c'est souvent dans des semi-sommeils ou dans des moments de repos où je laisse filer mes pensées, mes idées. Et c'est souvent là que j'ai des flashs de réponses. Et donc, voilà, j'ai ce fonctionnement-là et qui me plaît beaucoup au départ, qui m'a beaucoup déstabilisée parce que j'avais l'impression que je ne maîtrisais rien. Et en fait, je me suis dit, ben non, c'est super.
Donc, par flash, comme des images qui te viennent...
Ouais, c'est comme si, à un moment donné, il y a un processus qui se débloque. Et je sais que c'est pas parce que je vais y passer 4 jours non-stop en recherche et en insistant. Des fois, j'ai besoin, moi, de faire plusieurs choses à la fois, plusieurs tableaux à la fois. Mmh. Et des fois, d'un seul coup, bam, j'ai une réponse d'un chemin à prendre, mmh. d'une direction de motif, coloriste, de sujet, de format, peu importe. Mais j'ai en tout cas une bulle de réponse mmh. qui m'apparaît mmh. et sans que ça soit enfin il y a rien de mystique à tout ça hein. Je pense que c'est des fonctionnements de cerveau
ben, c'est le tien en tout cas
voilà c'est le mien donc voilà ce dessin il est passé par plein de chemins différents.
Oui, je crois que, si je me souviens bien, je l'avais vu à un moment donné où il y avait un arbre derrière la femme.
Ouais.
Un arbre blanc.
Ouais.
Et il n'y est plus du tout.
Ah non.
Donc,
Ouais,
je vois que tu as cheminé, enfin voilà, que ça a évolué beaucoup. Quoi.
Oui.
Ouais. Mais la femme, il y avait quand même la femme qui était à l'origine, quoi.
Oui, c'est vrai.
Cette femme avec les lèvres rouges, là.
Ouais. Bon, après ça, c'est une figure un peu leitmotiv dans mon travail depuis très longtemps. La femme, le corps, et souvent, il n'y a pas le visage.
Parce que ça laisse du coup à celui qui voit la liberté de se projeter, ou peut-être que c'est...
Oui, je pense. Je pense que quand j'ai des représentations humaines, en tout cas, pour moi, c'est plus intéressant de pas forcément aller dans l'expression, l'expression du visage. J'aime bien l'idée que ce soit soit l'environnement du tableau, soit la personne qui le regarde. Qui remplissent en fait ce personnage.
Oui, parce que l'expression, ça peut figer justement. Ça peut figer l'interprétation, ça peut figer le regard.
Complètement.
Mmh. Ok. Et sur sur la responsabilité, une question un peu plus générale.
Alors oui, j'ai pas répondu, pardon, à cette,
y a pas de souci.
Phase de question. Non, alors quand tu dis si j'ai l'impression de trop voir, pour moi, ça serait pas. Je le formulerai pas comme ça. Je pense que je suis quelqu'un d'hypersensible et que effectivement, des fois, ce que tu vas dire comme voir trop, c'est peut-être ressentir beaucoup. Mmh. Et en effet, je Je pense pas qu'on ait une responsabilité quelconque à quoi que ce soit, mais par contre, c'est pas un état très confortable d'être très très sensible comme ça. Donc du coup, c'est un long chemin pour apprivoiser cette nature et ce fonctionnement. Et du coup, je pense qu'effectivement, les arts graphiques, les arts visuels et les arts en général sont pour moi une source d'expression vitale. J'ai besoin d'avoir ces axes-là d'expressivité, ouais.
Et le chien, je l'aime beaucoup, il me fait penser au chien bleu. Ce chien, il me fait penser à une représentation de dessin pour des livres d'enfants.
Ouais.
Il me fait penser au chien bleu.
Ouais, j'ai un trait un peu parfois naïf, hein. Je me rends bien compte. J'ai longtemps un peu combattu ça parce que je me disais que c'était parce que j'étais pas très bonne en dessin. Et en fait, c'est aussi un trait que j'ai apprivoisé et que aussi j'aime nourrir. J'aime nourrir et je me dis, bah, en fait, si dans ma représentation, dans ma façon de représenter, il peut y avoir cette forme de naïveté, un peu qu'on peut retrouver dans l'illustration. Mais du coup, c'est d'autant plus fort pour moi de venir y rajouter des choses plus rugueuses.
Mais notamment le regard du chien. Je trouve que le regard du chien, tu vois, par exemple, ton personnage humain, il a les yeux bandés. Voilà, c'est ça. En revanche, le chien a un regard avec une présence comme s'il nous scrutait, tu vois. Mm-hmm. Comme s'il avait un regard d'humain, en fait. Un truc un peu avec une intention, tu vois.
Ouais.
Et ça, c'est intéressant dans le tableau.
En plus, le chien, entre-temps, est mort.
Ah.
Et ça m'a vachement attristée.
Ouais.
Du coup, voilà, je me suis dit, ah ben, lui, il va être là.
Ok. Le chien. A-t-il un prénom, ce chien ? Ah, zut.
Oui, il s'appelait Chet.
Hop. Ah oui, ça j'aime beaucoup cette question. Sur la broderie. Donc je prends pas une broderie en particulier, je parle de l'ensemble de la broderie. Qu'est-ce que la broderie te procure en termes de sensations ? Il y a l'action de piquer et de nouer, c'est un travail lent et où la chair est à même la matière. Donc je me pose cette question, qu'est-ce que ça te procure comme sensation ? Le fait que ce soit lent, qu'on se rende compte que le dessin se fait enfin c'est tout petit, c'est tout... c'est coudre, quoi. Qu'est-ce que ça t'apporte corporellement, en termes de méditation, enfin, je sais pas, tu vois. Enfin...
Eh bien, alors pour la petite histoire, la broderie, effectivement, c'est venu avec un intérêt particulier pour les arts textiles aussi. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, fascinée. Je chemine aussi depuis longtemps avec... cette notion du vêtement, du tissu, du fil. J'ai eu fait des sculptures en tissu pour des projets précis. Mais la broderie, ça a été vraiment sur le tard. En fait, au départ, c'est vraiment tout bête. Moi je fais beaucoup d'eczéma et donc j'ai eu souvent dans ma vie des moments où je peux pas faire grand chose, c'est vraiment, ça m'handicape énormément, et la broderie a été un médium pour moi où je pouvais à la fois Être devant la télé à regarder une série, une émission, peu importe, tout en faisant quelque chose de mes mains. Donc du coup, ça m'a permis d'être dans une forme de création différente, beaucoup plus lente, effectivement, méditative, mais à la fois la possibilité de faire deux choses à la fois, d'écouter tout en faisant avec sa main. Ça, j'ai toujours aimé faire ça. Et d'où l'idée de, au départ, je n'avais que des broderies abstraites. Je ne m'étais pas du tout intéressée à la technique, au solfège de la broderie. C'est plus tard que j'ai eu envie, parce que ça m'a plu, et donc j'ai eu envie de voir à peu près, en termes de solfège, les points, etc., les sortes de fils, et donc du coup de le réutiliser après. Mais c'est surtout ça le point de départ.
Donc en fait une activité, quelque chose qui serait immergé dans le quotidien. Regarder la télé ou enfin quelque chose où tu puisses faire les deux, comme tu dis,
Ouais,
faire deux choses en même
ouais,
temps,
ouais.
quoi. Donc qui est immergé dans un quotidien.
Et puis qui surtout me donnait la possibilité de quand même continuer à faire quelque chose malgré mon état physique. Qui était pas terrible du tout, quoi.
Et je te pose cette question aussi parce qu'il y a ce rapport à la peau. Moi, dès que je pense à la couture, je pense à aux dents, enfin à cette ambivalence justement, le fait que l'aiguille puisse écorcher la peau. Tu vois, il y a quelque chose de dangereux, un peu je sais pas comment dire ça. Enfin, bon, c'est simple, quoi.
Oui, c'est un outil qui peut blesser, c'est sûr,
Voilà, c'est ça.
mais ça va, je me suis
Ouais.
jamais trop blessée.
Ok. Ah voilà. Sur le motif de l'algue, qui est un leitmotiv, hein, on retrouve la rivière et ainsi le titre de l'exposition dans l'algue. Bon, symbolise-t-elle des choses, quelque chose? Sont-elles un retour au plaisir de ressentir les algues contre ses jambes, par exemple? Moi, je sais que ça m'évoque ça, en fait. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que les algues, il y a quelque chose de sensuel dans l'algue, parce que j'ai ce souvenir, cette trace de les sentir contre mes jambes dans l'eau. Un plaisir de baignade et ou d'enfance. Enfin, voilà. En bref, pourquoi les algues qui reviennent comme ça? Mais peut-être que tu as répondu déjà avant.
C'est plus pas. En fait, c'est pas tant des algues pour moi. C'est une fois de plus un motif organique. Du coup, ça correspondait très bien à l'ensemble sujet que je voulais mettre dans cette exposition de Il restera la rivière. Mais ce n'est pas pour moi quelque chose de prégnant. Je n'ai pas décidé de faire des algues. J'aime bien dire que ce sont des motifs cellules. En fait, et qu'à un moment, je m'en empare comme un pattern, un peu pareil comme dans la falaise, les lignes noires. Ça peut être aussi une rythmique. Et là, pour le coup, c'est plus onctueux, c'est plus rond. C'est vraiment le pattern organique.
Oui.
Et par rapport, alors ça m'a fait sourire, moi, que tu me demandes si ça m'évoquait des souvenirs d'enfant dans l'eau. Mais oui, mais alors par contre, moi, c'est plutôt quelque chose que je n'aimais pas du tout. Et qu'en fait, la rivière, autant j'adore m'y baigner, mais par contre, j'ai toujours des chaussures de rivière. J'aime pas être surprise par des choses. Je suis pas très téméraire, moi, dans l'eau et d'avoir des sensations qu'on vienne de toucher mon corps, surtout dans une eau assez trouble finalement, parce que nous, notre rivière, elle est rarement claire, elle est rarement translucide. Donc du coup, non, non, moi, cette sensation de l'inconnu sur ma peau, au contraire, me plaît pas du tout. Mais par contre, je trouve ça... je trouve que c'est des éléments magnifiques, en fait. Et donc, une fois de plus, c'est se servir d'une image et d'une forme pour aller la traverser avec d'autres médiums. Donc, tu vois, moi, mes algues, c'est pas forcément des algues, hein, c'est... des, comme je te disais tout à l'heure, ça peut être des cellules, des champignons, des... J'avais fait aussi tout un travail, je me souviens, qui n'a rien à voir avec cette expo, mais un travail sur un graphisme, sur un poème de Sarah Turcotti. Et en fait, toute ma base de données, c'était aussi des patterns un peu organiques comme ça. Et en fait, je m'étais amusée à calquer des bouts de système nerveux. Et du coup, en fait, c'était... je suis en fait assez fascinée de voir à quel point c'est les mêmes patterns graphiques. Et du coup, voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est jamais...
Il n'y a pas de frontière, quoi.
Je le nomme pas en tant que tel.
Ouais.
Pour moi, c'est vraiment organique. Et nous sommes organiques.
Ok. Et ce que j'aime bien, c'est... et là aussi, on retrouve cette espèce d'effet de rupture. Le fait que, par exemple, ces algues, si je les appelle des algues, on va dire, ou ces matières organiques, ces espèces de choses organiques, ce soit sur des serviettes à carreaux. Et ça crée un élément de rupture, quoi. Parce qu'on voit un objet du quotidien, de la cuisine, ou quelque chose dont on se sert pour s'essuyer les mains, enfin quelque chose de très commun. Et là, c'est le cadre, enfin c'est le support de la broderie.
Ouais.
Et donc, je retrouve là, tu vois, ce que tu disais tout à l'heure sur créer des effets de rupture, de dynamique, de... Enfin, voilà.
De rythme.
De rythme.
C'est vrai que moi, j'aime bien ça. J'aime bien casser un rythme, en tout cas. Des fois, ne pas trop se laisser aller à la contemplation.
À l'admiration, quoi. Enfin,
garder l'esprit vif aussi de toutes nos contradictions et de tout ce qu'on... de notre complexité.
Ouais. D'être un peu... assumé d'être dérangé un peu. Toujours un peu dérangé. Pas là où il faudrait être, mais un peu en bascule, quoi. Ok. Sur le motif du citron, et peut-être que c'est pas un citron. Peut-être que c'est pas un citron. En tout cas, ces gros fruits, souvent très... monumentaux, donc ils reviennent souvent dans tes peintures. Alors moi, je pense à l'acidité de l'agrume, comme si paradoxalement le citron était à la fois l'été, la vie, le soleil, c'est une symbolique, et à la fois ce qui attaque, ce qui ronge l'environnement, peut le malmener. D'où la présence des crânes, par exemple, qui reviennent aussi d'animaux. Ou du moins le faire muter, d'où les couleurs flashy, voire parfois fluorescentes des œuvres. Qu'en penses-tu ? Bon, c'est peut-être pas un citron, voilà. Mais moi, j'étais partie sur cette ambivalence, justement, de ces gros fruits-là.
Oui, mais du coup, là, pour moi, c'est pareil que les formes organiques plus abstraites. Alors, effectivement, là, c'est rassurant, parce qu'on voit, effectivement, soit un citron, soit une figue. Donc, il y a quelque chose de rassurant, parce qu'on peut, le nommer. Mais je... Comme tu dis, c'est pas forcé, c'est ça, c'est des gros fruits, c'est... Alors, je dirais qu'en fait, là pour le coup, c'est mon envie de la... c'est mon envie du côté gourmand, en fait, du côté un petit peu glorieux de la vie, de... C'est mon côté hédoniste là qui parle.
D'accord.
D'avoir envie et d'y mettre de une forme de chair en fait. C'est peut-être plus par là.
Sensualité.
Ouais. C'est plus par là que j'exprimerais toute une sensualité, une rondeur que par des corps ou par un paysage. Parce que c'est pour moi aussi quelque chose d'hyper important dans ma vie. Moi, d'être ici, de vivre à la campagne, ça veut dire être entourée de marchés, ça veut dire être entourée de possibilités de manger des choses bonnes, belles, qui ont été... Enfin, j'ai une vraie passion pour la nourriture, mais pour les fruits, les légumes, ça me... Je pourrais garder mes légumes sur ma table pendant des jours.
Parce que c'est beau.
Parce que c'est gourmand. Ouais, c'est vraiment, pour moi, là, c'est ça. Ça fait partie d'une scénographie qui me remplit de joie. Et du coup, je pense plus de cet ordre quand je les distille de temps en temps dans mon travail. C'est pour redonner ce sentiment-là, en tout cas. Et une fois de plus, toujours je joue avec ces rythmes, ces ambivalences entre quelque chose qui va être plus dru, qui va te mettre plus mal à l'aise, qui va plus t'écorcher le cœur. Et j'aime bien le mettre avec de la sensation généreuse, palpable, gourmande, parce que c'est de ça dont on est constitué en permanence.
Une espèce de dialectique entre quelque chose qui serait un peu inquiet, une inquiétude, et en même temps quelque chose de, comme tu dis, gourmand, généreux, de l'ordre de la vie, quoi, de la vitalité.
C'est ça.
De la vitalité. Ok, bon, bah merci beaucoup.
Mais merci à toi, Lola.
À bientôt.
À bientôt.